C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Chaque année, cela ne manque pas, au printemps arrivé, cette injonction à faire un grand ménage chez soi. Il suffit de se balader en ville un samedi après-midi de fin avril, début mai, pour entendre aspirateur par-ci, serpillière par-là, vitre en cours de lavage par ici. Pourquoi ce grand ménage de printemps? Eh bien, les historiens et historiennes retracent cette habitude à une décision de François Ier, on l'aime beaucoup, dans l'histoire avec un grand I, une décision donc, ou plutôt un décret, publié en 1507, et instaurant ce qui s'appelait à l'époque le grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés. Avec moi pour dépoussiérer ce fait historique, oublié de beaucoup, la fine équipe d'experts en histoire plus qu'en aspirateur, Karine Rinauda, Alexandre Robelin et Julia Marel. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors, Karine Rinauda, François Ier signe un décret en 1507 instaurant le grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés. Que contient ce décret précisément ?
Eh bien écoutez, ce décret, il contient plusieurs parties qui visent toutes à faire comprendre aux citoyens à cette époque, en 1507, que le ménage, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la société, avec l'idée que il faut prendre soin de son foyer pour prendre soin de soi et des autres.
Et pourquoi est-ce que ce décret, il arrive en 1507, pas plus tôt? Pourquoi est-ce que c'est François Ier qui le défend?
Alors, 1507, la date n'est pas au hasard. En fait, il faut savoir qu'en 1499, la France est touchée par une épidémie. Une épidémie d'asthme.
L'épidémie d'asthme.
Les Français sont asthmatiques. Les Français sont allergiques aux acariens. Et du coup, François Ier... signe le décret du grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés, GMOBJA, en 1507, pour obliger les foyers à être nettoyés et pour éradiquer la maladie. Donc c'est vraiment une décision sanitaire, autant qu'une décision, je dirais, de sociétale, comme l'évoquait Karine.
Je rajouterais aussi, avec ce que vous dites, Jules Marel, que ce grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés, c'est aussi une façon de faire des économies. On en profite. C'est effectivement, le fait déclencheur, c'est cette épidémie d'asthme en 1499. Mais on sort d'une guerre en fin du XVe siècle, d'une guerre avec la Suisse. Une guerre qui a duré c'est une petite guerre certes, mais c'est une guerre qui nous a mis à mal économiquement en France, il est temps de faire des économies. Et jusqu'alors, le ménage n'étant vraiment pas quelque chose qui était dans les mœurs, on était beaucoup plus apte à jeter les choses. Tout était beaucoup plus jetable puisqu'on n'avait pas l'habitude de laver les choses. Si une chaise était poussiéreuse, si du dépôt s'était installé dessus, on avait plus tendance à la brûler et en fabriquer une nouvelle, plutôt que les cendres. On pouvait laisser vraiment, la crasse pouvait vraiment s'installer pendant des années et des années, des décennies même, avant qu'on daigne passer un coup de chiffon. Désormais, c'est obligatoire, c'est à la fin du mois de mai qu'on lave les maisons, qu'on épouste les fenêtres et les rideaux, et ça permet de faire énormément d'économies.
Énormément d'économies, mais ça crée aussi une récession économique en 1508, parce qu'effectivement, Alexandre, vous l'avez dit, à la fin du XVe siècle, la France, son économie tourne par le rachat d'objets, c'est-à-dire qu'on jette des objets, on les brûle, toute la vaisselle était cassée, toutes les chaises étaient renouvelées régulièrement, et donc ça crée énormément d'emplois, ça crée énormément de richesses, et c'est une économie qui tourne. Lorsque François Ier instaure ce décret, certes, les retombées sanitaires sont excellentes, mais quelques années après, l'année d'après d'ailleurs, la récession économique se fait sentir. Comme on ne rachète plus des choses, comme on réutilise, comme on nettoie, les vendeurs de chaises, les vendeurs de couverts, les vendeurs de vaisselle, les vendeurs de rideaux se trouvent mis à mal par ce décret.
Tout à fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que la guerre, à la fin du XVe, a été perdu par la France face à la Suisse. Et ce décret du grand ménage, comme j'aime à l'appeler, a aussi été choisi en réponse à cette perte de la guerre, puisque à cette époque, la Suisse n'est pas touchée par cette épidémie. Pour une raison, c'est que la Suisse est propre. Et ce qui fait du mal à la France en 1508, c'est aussi que la Suisse est riche. Et la France n'arrive pas à suivre ce modèle économique de propreté et de richesse parallèle.
1507. Mais je...
Non, pardon, 1508.
1508 pour ?
C'est en 1508 qu'il y a eu une crise économique.
Oui, la récession économique a eu en
1508. Oui, pardon, excusez-moi, je pensais qu'on était sur l'instauration...
Du GMO Bégir.
Ah, justement, pour revenir sur l'instauration de ce décret, hein, on le rappelle, grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés, c'est quand même pas anodin comme nom de décret. Vu le déroulé historique que vous dessinez, il est entré en vigueur assez rapidement. Le peuple a l'air d'avoir rapidement accepté ce décret qui pourtant changeait les habitudes énormément.
Le peuple accepte ce décret parce qu'il sait que François Ier, déjà François Ier est vraiment potentiellement le roi de France qui a été le plus aimé selon les sondages de satisfaction des Français. Nous le montre, c'est le président qui a eu le plus haut taux de satisfaction, 92% de petits bonhommes verts et verts foncés avec un grand sourire. Et surtout, le peuple sait aussi, parce que François Ier communique sur ça, effectivement, il y a une récession, effectivement, certains domaines industriels sont mis à mal en France, mais la Suisse aussi en prend un grand coup. Malgré sa victoire contre la France, ce ménage obligatoire met la Suisse à mal, puisqu'on le sait, la guerre avec la Suisse, appelée la guerre des scieries, en rapport au fait qu'on se battait à l'époque pour l'industrie du bois avec la Suisse, entre 1490 et 1495, la guerre des scieries, gagnée par la Suisse, mais la Suisse, première économie grâce autour du bois, grâce notamment à sa manufacture de chaises, de meubles, de placards, etc., etc., de mobilier en bois, complètement mise à mal aussi.
Donc en fait, cette guerre qui a été perdue, c'est comme ça qu'on le présente, en fait c'était un peu la première manche, et François Ier, ce décret, ça a été un peu une façon de faire une guerre, non pas avec des armes, mais version économique à la Suisse.
Mmh. François Ier était très malin, et François Ier était un grand communicant. Il faut savoir que déjà, faire adopter le grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés, c'était quand même une performance. Parce que, effectivement, on a vécu dans une telle propreté pendant des années, le faire adopter en un an, c'était quelque chose de très difficile. Alors François Ier est très malin. Il embauche des artistes, il embauche des troubadours pour répondre ça. Il fait peindre des tableaux magnifiques de sa femme Marie-Antoinette qui participe elle-même au grand ménage des beaux jours oubliés. C'est vraiment quelque chose de... On voit le grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés comme étant un événement pour les plus fortunés, pour ceux qui ont de la chance. Et donc les gens se sentent chanceux d'avoir ça. Et en plus de ça, donc il est très malin, c'est vraiment une réponse forte effectivement à la Suisse suite à la défaite.
Donc il y a un vrai travail de créer un marketing du désir pour le peuple d'aller vers cette nouveauté et de chercher, moi aussi, petit peuple français, à participer à ce grand ménage des beaux jours arrivés. Intéressant. Pour revenir sur le peuple lui-même, on a vu apparaître à ce moment-là des nouveaux outils qui n'existaient pas. Voilà, comment est-ce que les gens s'en sont accaparés? Il n'y avait pas de manuel à l'époque pour s'en servir. Comment ça s'est passé? Karine, peut-être.
Ça a été très intéressant puisque ces nouveaux outils ont été directement investis par le peuple comme des outils de renouveau, d'innovation. Ils ont été très appréciés. Parmi eux, bien sûr, on compte l'Aspirus, qui a été la première version de l'aspirateur. L'Aspirus, il est apparu un peu plus tard, hein, il n'est pas apparu tout de suite, c'était en 1511, il me semble, par un fortuné maréchal Ferrand, qui à un moment donné s'est rendu compte que en limant les sabots des équidés qu'il rencontrait dans son étable, dans son travail, il y avait besoin de souvent de passer le balai, qui n'est plus devenu un outil suffisant avec ce grand ménage imposé à tous les mois de mai, puisqu'il devait passer le balai très souvent. Donc l'aspirus était vraiment la solution ultime de rapidité et d'efficacité.
Donc on voit vraiment le début d'une nouvelle industrie qui suit vraiment l'arrivée de ce décret. On parlait de la récession, qui a suivi. En fait, ce que les historiens retracent aussi au fil du temps, c'est que certes, ça a démarré par une petite récession, mais après, il y a eu toute une croissance économique française grâce à ce grand ménage de printemps des beaux jours arrivés.
Les vins glorieuses, celles qui s'étendent jusqu'à la fin des années 1530. Les grandes glorieuses, on les appelle par extension les grandes glorieuses du ménage. C'est la reconversion de toutes ces entreprises qui misaient sur l'obsolescence due à la saleté de beaucoup d'objets du quotidien, donc cette reconversion vers des outils de ménage. François Ier a lui-même participé à ça, je veux dire, il a fait venir des ingénieurs, des scientifiques un peu partout en Europe pour pouvoir alimenter cette nouvelle industrie. Et c'est ça qui positionne la France comme une des plus fortes nations économiques à l'époque en Europe.
Tout à fait. Et en plus du fait que les entreprises se sont tournées vers de nouvelles fabrications, les ouvriers aussi ont pris part à leur manière à cette modification du système économique. Pour le rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, l'aspirus, donc, c'était une sorte de grand tuyau avec un filtre, et il y avait besoin d'un aspirussier, comme on les appelait, pour aspirer dans ce tuyau sans bien sûr avaler tous les déchets grâce au filtre. Enfin, c'était vraiment un système très très innovant et très ingénieux qui a permis de créer beaucoup d'emplois.
Alors, je nuancerai quand même avec le fait que les aspirussiers, on l'a su bien plus tard grâce à des études. Beaucoup d'aspirussiers ont quand même eu des fins de vie un peu difficiles. Aspirer comme ça de la poussière et des gros débris. Les filtres n'étaient pas très très performants à l'époque. Et beaucoup ont contracté beaucoup de maladies respiratoires. On sortait en plus, je vous rappelle, les Français étaient asthmatiques à l'époque. Ça n'aidait pas.
Et c'est d'ailleurs un aspirussier, Joseph Le Marchand, qui a eu pour la première fois l'idée de créer ce qui est vraiment l'ancêtre de l'aspirateur, c'est-à-dire qu'il a pensé à remplacer un aspirussier par un soufflet dont on servait dans les cheminées. Et donc, du coup, les aspirussiers actionnaient la manivelle au lieu de d'aspirer eux-mêmes, et à la force de leurs poumons. Donc ça a été une grande invention de l'époque.
Donc là, on parle du côté positif, on va dire, de ce décret. Au final, il y a néanmoins aussi eu le début d'un impact sociétal et de début de révolte pour deux raisons. Déjà, il y avait une partie de la population qui était plutôt lésée, vous avez parlé des aspirussiers. Il y avait aussi la question du temps qu'occupe le ménage dans le quotidien du peuple français à l'époque, temps qui avant était réservé pour les loisirs.
Bien sûr. Sachant que, en plus, du coup, les plus riches embauchaient des personnes plus modestes pour pouvoir faire le ménage à leur place. François Ier, dans sa grande bonté, décide en 1522 d'interdire l'emploi de quelqu'un d'autre pour faire le ménage à sa place. Les nobles doivent donc se mettre au pas et faire le ménage chez eux. C'est ce qu'on appelle dans l'histoire communément la grande dépression de la noblesse, obligée de mettre la main à la pâte et de se salir les mains. Beaucoup de nobles partent en thérapie. Ils ne supportent pas de devoir laver chez eux et beaucoup décident même d'abandonner leur titre de noblesse à cause de ça et de partir vivre dans d'autres pays.
La Suisse qui en fait
qui est déjà propre à cette époque,
qui est déjà propre par elle-même
et,
en fait.
Et alors effectivement les gens avaient moins de temps pour les loisirs et on a vu énormément de jeux et de sports disparaître à cette époque en fait, des jeux qui jusque là étaient pratiqués qui n'ont jamais re-été pratiqués dans l'histoire. Je pense évidemment au jeu du cochon.
Le jeu du cochon disparaît totalement.
Le jeu du cochon ne réapparaît jamais ensuite parce que bah, là, plus personne n'avait le temps de pratiquer.
C'est dommage.
C'était un jeu qui était très demandant physiquement et donc il fallait s'adonner régulièrement mais, pour maîtriser le cochon. Mais ça n'a jamais été repratiqué ensuite et c'est dommage.
Je pense qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles ce jeu n'a plus été pratiqué. Le cochon étant un animal symboliquement sale, il n'était plus cohérent avec cette idée du grand ménage.
C'est vrai que c'est aussi une des raisons qu'a
oui, été. Et d'ailleurs, on perd, enfin, le cochon, la population de cochons baisse drastiquement en France à partir de cette époque.
Mais dès lors qu'on invente les étables, en fait, c'est aussi à cette époque qu'on invente les enclos et que les cochons ne vivent plus à l'intérieur. Ils n'ont plus une chambre à eux dans les maisons et donc ils vivent à l'extérieur. Ils ont froid et forcément, il y a le déclin de la population de cochons à cause de ça.
C'est vrai. Donc là, on parle du coup de, bah, on va dire, des années qui entourent le règne de François Ier. L'impact du décret du grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés, il s'est ressenti aussi plus tard, quelques centaines d'années plus tard. Alors sans venir jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut retracer les sursauts qu'il y a eu dans l'histoire de ce décret et l'impact qu'il y a eu sur la vie politique française?
Le GOMOBJA. À partir du moment où il est décrété, ne s'est jamais arrêté, sauf à un seul moment, tout le monde le sait, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes les atrocités de la guerre ont fait que les gens n'ont pas pu nettoyer leur maison, et ça a repris d'autant plus fort après, et en 45, le GMOBJ de 45, est particulièrement fort et particulièrement important. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, on avait noté que le premier JMOBJA avait provoqué les 20 glorieuses, bah, c'est à ce moment-là qu'on a eu les 30 glorieuses, c'est grâce au grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés. C'est les deux périodes glorieuses de notre histoire sont liées à
ça. On va dire à chaque fois, le schéma se répète, une guerre et la volonté comme ça de faire un coup de choc pour redémarrer la nation et lui dire, ça y est, c'est parti, on fait du ménage, quoi.
On fait du ménage. On fait du ménage, évidemment. Ce qui a été... C'est une tactique, oui, effectivement, que le général de Gaulle reprend de François Ier. Il remet en place le JMOBJA à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Les Français n'en veulent pas. Les Français ont autre chose à faire. Ils ont envie de faire la fête. C'est terminé. La guerre est terminée. Nous n'avons pas envie de... On fera le ménage plus tard. Disaient les Français. Ils le scandaient dans les rues. On fera le ménage plus tard, on fera le ménage plus tard. Laisse-nous tranquille, Charles. Et du coup, Charles de Gaulle décide, vu qu'en 45, en 46, même pas en 47, jusqu'en 49, le peuple français ne veut pas de cette nouvelle JMOBJA. Et donc, le général de Gaulle décide de renommer le JMOBJA en grand ménage de printemps.
Qu'on connaît aujourd'hui.
Qui redonne, c'est un rebranding, hein, c'est vraiment, on refait, c'est la même soupe, mais avec un nom différent. Les Français ont pris.
Il reprend aussi cette technique de François Ier de marketing, de faire venir des artistes autour du grand ménage de printemps pour chanter des chansons, pour écrire des livres à ce sujet.
Tout à fait.
Le grand ménage de printemps, juste la version marketing du grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés, ce sera le mot de la fin pour cette première partie. On se revient juste après le grand ménage du printemps, justement, de Stéphane Faulkner.
Affaires, changer les meubles de place, faire passer un
souvenirs qui t'agacent. C'est le grand ménage de printemps qui sort par-dessus le tapis. Il va vite sacrer son calme. Je l'ai vu se pousser par le châssis.
Et nous voilà de retour dans l'histoire avec un grand I. Aujourd'hui, nous traitons le grand ménage de printemps. C'est le nom qu'on donne à cet, on va dire, événement aujourd'hui qui s'appelait, il fut un temps, le grand ménage obligatoire des jours arrivés. Grand ménage de printemps, c'était aussi le titre de la chanson qu'on venait d'écouter. On parle de l'impact que ça a eu, cet événement, sur la Seconde Guerre mondiale. Je propose de revenir en arrière. Il y a quand même un pan de l'histoire dont on n'a pas évoqué, qui est quand même sensible. Autour du règne de François Ier, c'est l'impact que ce grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés a eu dans le monde de l'art.
Le monde de l'art qui a été marqué par le grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés. Alors, François Ier, on l'a dit, était un grand communicant et pour faire adopter le grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés à son peuple, a mandaté des artistes, on en parlait. Il a fait venir... notamment des figures de l'époque. Je pense à Léonard de Vinci, qui est venu en France peindre le grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés. Il y a des superbes tableaux d'Aspirus en train d'aspirer des saletés dans les maisons. Donc voilà, ça a donné lieu. Il a fait sa collection du JMOBJA, comme on l'appelle aujourd'hui, de 25 tableaux qui dépeignent des scènes de vie du grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés.
Et c'était les 25 tableaux pour les 25 régions françaises qui étaient découpées à l'époque.
Comme c'était découpé à l'époque. Un tableau par région, ouais, c'est ça. Et qui est maintenant exposé. Chaque tableau est exposé dans la région qu'il représente.
Intéressant. Est-ce qu'on a fait venir comme ça d'autres artistes, vraiment sur un effort marketing et de communication, vraiment. C'est vraiment les prémices de la communication moderne pour dessiner comme ça ce que les Français devaient faire avant même qu'ils le fassent.
Donc on avait fait venir des écrivains, donc... de ces personnes qui ils allaient en fait sur c'était ce type d'art en fait c'était cette forme d'art était l'idée d'aller au plus près de quelque chose d'une action du peuple et de dire ce qu'on en pense. Donc là les écrivains allaient près dans les maisons et disaient ce qu'ils voyaient et donc ils disaient oh mon Dieu toute cette poussière, les aspirus, bravo, ce genre de choses. Et après, ils allaient le propager dans l'Europe. Ils allaient compter les bienfaits du JMOBJA au reste de l'Europe. Et c'est ça qui a ouvert le JMOBJA, qui a apporté la connaissance du JMOBJA au reste de l'Europe.
Moi, je repense à ce poème de Victor Hugo que vous avez sûrement appris à l'école. Mais qui est pour le grand ménage de printemps, qui dit « Ménage, ménage, ménage ta monture, lorsque tu fais le ménage dans ta maison, cher ménage, gratte-toi les méninges, il ne faut pas que ça gratte. »
Pour laver les murs.
Les murs.
Victor Hugo.
Victor Hugo, tout à fait.
Ok, donc encore là, une marque du marketing de François Ier jusqu'au bout de sa campagne. On a ouvert la porte à l'idée, là, vous parliez de l'impact que ça a eu sur l'Europe. C'est aussi le début de l'influence française en dehors de ses frontières.
Bien sûr, bien sûr. En tant qu'expert en anthropologie, je peux le témoigner. J'ai fait d'ailleurs un doctorat sur l'impact que ça a sur l'Europe. À ce moment-là, c'est, j'en ai parlé plus tôt, les nobles qui suite au décret de François Ier en 1922, qui les oblige à faire eux-mêmes le ménage, qui partent vers la Suisse, mais le vrai peuple, partout d'Europe, décide d'affluer vers la France. Cette idée de journée pour le grand ménage, ça lui plaît. En plus, François Ier a la cote, tout le monde le sait en Europe. Évidemment, il y a une grande vague migratoire vers la France, On dénote près de 100 millions d'habitants en France à cette époque, qui est en fait le pays le plus peuplé d'Europe, voire du monde.
Voire du monde,
effectivement. Et effectivement, ça pose à la fois, à la fois ça participe au temps glorieux, aux vins glorieuses de la France, puisqu'il y a main d'œuvre, mais à la fois il y a crise du logement. Parce que il n'y a pas de place pour ces 100 millions d'âmes et donc on se met à construire des maisons très très vite, et beaucoup de villes ont émergé à cause de ça, beaucoup de villes ont été créées parce qu'il n'y avait pas de place, et donc on a créé des villes
Clermont-Ferrand à la base.
Clermont-Ferrand,
c'est ça,
hein, c'est une ville issue de l'immigration des peuples suite à la JMOBJA. Clermont-Ferrand qui s'appelait à la base
Clermont-Maréchal-Ferrand. C'était là où il y avait le plus de Maréchal-Ferrand en France. Ça a été fondé par un Maréchal-Ferrand italien, en fait, à la base. Donc, il l'a appelé Clermont-Maréchal.
Il y avait aussi dans cette ville, justement, Monsieur Clermont qui a créé l'Aspirus.
Oui, bien sûr.
Oui, c'est vrai.
En fait, l'Aspirus, qui a tant servi à la France, on va dire l'élément déclencheur de son arrivée, c'est un Maréchal-Ferrand italien.
Monsieur Clermont.
Monsieur Clermont.
Oui, comme Karine l'a dit.
Très bien, très intéressant. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut faire un tour de table et un peu avoir chacun votre avis personnel? Qu'est-ce que, pour vous, ça a changé, cette arrivée du grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés? Comment le voyez-vous dans votre vie? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce décret?
Aujourd'hui, pour moi, ce grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés, c'est une invitation, ce n'est plus une obligation. D'où le fait qu'il ait été renommé. On en garde des grandes œuvres d'art, on en garde une philosophie de vie et des grandes villes aujourd'hui qui continuent d'être prospères. Voilà, il fait partie de l'histoire. Il n'est plus central, comme il a pu l'être à un moment donné. L'âge d'or du grand ménage est passé. Mais il est suivi par encore beaucoup de personnes et on n'en parle plus de ça. Toutes les groupes de personnes aujourd'hui qui continuent de mettre en avant ce grand ménage de printemps. Il y a des associations qui suivent ces événements au mois de mai, qui sont réitérées chaque année pour quand même mettre en valeur cette philosophie. Notamment, je pense à l'association Mon Grand Ménage.
Bien sûr.
Qui existe depuis maintenant 58 ans et qui dénombre vraiment énormément d'adhérents.
D'ailleurs, n'hésitez pas à donner. Je sais qu'ils font une cagnotte en ce moment pour le prochain grand ménage de printemps. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, à donner sur leur site internet.
Tout à fait. Pardon, je me permets d'intervenir parce que ce prochain grand ménage de printemps, il invite la population entière à faire le ménage chez soi, mais aussi au château de François Ier, pour lui rendre hommage.
Le grand ménage de printemps au château de François Ier, vous êtes tous invités en mai prochain à y participer. Ce sera le mot de la fin pour cette édition de l'Histoire avec un grand I. Merci à mes invités. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre fait historique.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.